Radio Okapi. Grande interview.
Il vient de publier sa 17e tribune intitulée « Qui doit à qui ?». La grande interview reçoit Adolphe Mouzito, député national et premier ministre honoraire. Avec lui, nous aborderons aussi d'autres sujets d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Adolphe Mouzito, vous êtes premier ministre honoraire et vous êtes député national. Vous venez de publier votre 17e tribune. Vous vous exprimez souvent par ce moyen. Pourquoi ?
C'est une coutume héritée du parti Lumumba signifié. Voyez-vous comment on dit les écrits restent, les paroles partent. Et donc pour moi, je pense qu'en écrivant, en mettant les chiffres, en cas de contradiction, la discussion est possible. Donc c'est plus facile pour moi d'assumer mes écrits, mes idées, mes propositions, dans l'hypothèse où il y aurait un contradicteur.
Que répondez-vous à certains de vos détracteurs qui estiment qu'après avoir été au pouvoir, après avoir été aux affaires, vous n'avez de leçons à donner à personne? Et surtout quand vous publiez des titres assez durs comme RDC, un royaume d'aveugles conduit par des borgnes, c'était votre 8e tribune.
Non, mais en principe, tout acteur politique devait s'exprimer sur les questions d'actualité nationale, diagnostiquer, faire des propositions, faire la prospective. C'est une responsabilité. Je suis déçu de constater qu'on traite les acteurs politiques qui sont au grand niveau, au devant de la scène, ne s'expriment pas. Ils sont plutôt dans des stratégies, des positionnements pour conserver le pouvoir ou pour accéder au pouvoir, sans parler, comme j'aime bien le dire, avec le peuple dans un dialogue vertical où on rencontre, on évalue, on critique, on fait même l'autocritique et on fait des propositions. Et donc, j'ai géré le pays. Le moment viendra, je ferai mon bilan. Et d'ailleurs, quand je fais des propositions, quand je fais des critiques, j'ai mis en exergue aussi les actions qui ont été les nôtres en comparaison avec les politiques publiques actuelles. Donc, je ne dis pas des choses que je n'ai pas eu à faire, et même ce que je n'ai pas fait, j'ai fait l'état des lieux pour constater les faiblesses qui auront été les miennes, les faiblesses qui auront été ceux de mon gouvernement. Le plus important, c'est de constater qu'on s'est trompé ici ou là, et que la prochaine fois, on doit faire mieux, et on conseille à ceux qui sont là de ne pas commettre les mêmes erreurs pour le pays. Et voilà, donc, il ne s'agit pas de donner de leçons, il s'agit de réfléchir. Déjà, quand j'ai fait ces réflexions, voyez-vous, je prends un risque, je m'exhibe, je me soumets aussi à la critique des autres. Moi, je voudrais bien que les gens réagissent par rapport à ce que j'ai dit, là où je me trompe, parce que j'ai aussi les droits de me tromper. Le plus important, c'est qu'on évolue avec les débats dans ce pays. Mais les gens se taisent, ou bien ils n'ont pas la substance, ou ils l'ont, mais ils préfèrent la conserver parce qu'ils ont plutôt des préoccupations de positionnement politicien.
La loi électorale révisée a été promulguée depuis le 24 décembre 2017, et dans votre 17e tribune, intitulée « Qui doit à qui ?», vous faites référence à cette loi électorale. La plupart d'analystes disent que cette loi est conflictogène à partir du problème du seuil, de la caution qui est exorbitante et de cette affaire de la machine à voter. Quel est votre avis?
Moi, de manière générale, j'apprécie cette loi en ce qu'elle va dans le sens de ce que j'ai souhaité, à savoir les regroupements des partis politiques. Évidemment, regroupement pas uniquement pour des raisons électorales, c'est regroupement sur fond d'une vision partagée, d'une idéologie, d'un projet de société, des politiques publiques sur lesquelles on peut converger entre plusieurs partis politiques. Ça, c'est bon, parce que moi, je suis déjà contre les clivages actuels opposition-majorité, parce que majorité, c'est pas une identité, encore qu'il n'y a plus de majorité. Parce qu'une majorité présuppose un programme sanctionné par le peuple, un mandat. Et l'opposition, c'est aussi un mandat pour apporter la contradiction à ceux qui ont eu la majorité en émettant des observations sur leur politique et en proposant. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a un mandat, qui a un projet de la part du peuple. Donc, il n'y a ni opposition ni majorité. Donc, j'ai dit que cette loi, elle est bonne parce qu'elle va favoriser les regroupements. Parce que les petits partis politiques, ça n'apporte rien. On ne peut pas être à deux ou à trois et porter un projet pour toute une nation. C'est de l'imposture. Mais par contre, ceux qui, d'ailleurs, sont des brillants personnages, qui ont un parti, avec deux ou trois militants ou leurs familles, mais des brillants universitaires. Je crois qu'ils peuvent mieux se décanter, se démarquer dans de grands ensembles en étant avec les autres, en les fédérant autour des idées qu'ils portent, quitte à ce qu'on avance et qu'on ait le mandat du peuple sur base des projets. Et donc, ça va dans le sens des regroupements, le seuil. Mais ceux partis qui vont avoir les seuils et qui auront donc de ce fait démontré qu'ils ont l'ancrage dans le peuple, qu'ils ont l'adhésion du peuple pour avoir travaillé en lui, eh bien, il faudrait les soutenir, les encourager, parce qu'ils travaillent pour la nation. Il existe une loi prévoyant le financement des partis politiques, avec deux grandes rubriques. La première, c'est le financement au profit des fonctionnements permanents des partis politiques. C'est 1% du budget de l'État. Et une autre rubrique de 2% du budget de l'État au titre des ressources ou des quotités qu'ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser les frais de campagne engagés par les partis, de manière générale et en particulier, des candidats présidents de la République. Cette loi existe. Nous l'avons fait voter dans le cadre de la coalition portée par le PALU, dirigée par Gizenga à cette époque, donc en juin 2008. Elle avait pour vocation de donner une espèce d'égalité de chance entre partis. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, et les uns, et même ceux qui sont dans l'opposition, leur donner les chances pour qu'ils aient des moyens pour se déployer dans le pays, encadrer la population, l'amener à avoir une conscience nationale. C'est une production citoyenne et sociale pour laquelle il faut une rétribution.
Mais jamais appliquée comme la plupart des lois.
Jamais appliquée parce qu'elle devait être appliquée au quinquennat suivant, c'est-à-dire le quinquennat 2012-2016. Et la majorité au pouvoir n'a pas voulu. Mauvaise volonté ou ignorance, je n'en sais rien. Et donc on n'a pas remboursé les frais de campagne aux candidats qui ont franchi un certain seuil acceptable. Je pense au candidat lui-même, il a engagé les frais, j'espère que c'est de l'argent à lui propre et qu'il fallait lui rembourser. Son parti aussi, les PALU, Kamere, par exemple, il a été UNC, Kamere était candidat, il a eu un seuil respectable de plus de 5%, et je crois que Tshisekedi aussi, ils auraient eu des moyens. D'abord pour rembourser les frais qu'ils ont empruntés ou reconstituer le fonds de leurs militants pour permettre à fonctionner. Au-delà de ces remboursements, les fonctionnements, c'est 1% d'un budget à moyenne de 5 milliards de dollars pendant ces quinquennats. Ça signifie 1% de 5 milliards, c'est 50 millions de dollars à répartir à une moyenne de 25 ou 20 partis politiques, ce qui pourrait faire autour de 2 millions par an, et plus ou moins 10 millions en 5 ans, ça permettrait aux partis qui ne sont pas au pouvoir
mais est-ce que,
d'avoir des moyens de leur indépendance face au pouvoir en place et face à d'autres lobbies.
Mais est-ce que la majorité au pouvoir ne s'affaiblirait pas en finançant des partis politiques?
Elle s'affaiblirait parce que si le critère est l'argent pour être fort, ou les a. Mais si les critères sont l'excellence, c'est la qualité des idées, c'est la production de la pensée, eh bien, elle serait en même position avec les partis d'opposition pour que le pays avance. Parce que le meilleur de nos intellectuels ne sont pas dans le parti politique parce que c'est la précarité là-bas. Quand on dit « à vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire ». Les partis au pouvoir ne doivent pas se féliciter d'être forts parce que tout simplement ils ont l'argent et que les autres n'ont pas. Ils doivent être forts parce que dans la compétition d'égal à égal, ils montrent une certaine transcendance. Et c'est ça qui fait que dans d'autres pays, même le parti qui est dans l'opposition, à la limite, il n'a même pas besoin d'aller quémander les pouvoirs d'une majorité dont il désapprouve la politique, ce qui déjà a été un paradoxe. C'est tout simplement parce qu'ils veulent y aller pour avoir un peu de ressources, un peu de revenus, et donner du travail aux militants pour qu'ils aient une certaine capacité de financer les élections et le fonctionnement. Ce qui devait l'être par le soutien de l'État, mais qui ne l'est pas, et qui fait que le parti politique de l'opposition, au lieu d'attendre des élections, font la débauche pour aller jouer avec celui dont il proteste la politique.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Adolphe Muzito, député national et premier ministre honoraire.
Si je vous comprends, la loi électorale serait plus efficiente si, à travers le seuil, les partis politiques étaient financés.
Voilà, si en contrepartie, parce que les deux lois se tiennent, la loi électorale qui indique un seuil d'éligibilité pour que vous soyez viable et mérité de la République, si vous avez une politique, vous avez une masse critique pour être dans le Parlement, un minimum de ressources et qu'en contrepartie aussi l'État vous soutient. Comme ça, les ressources de l'État qui ne sont d'ailleurs que, comme le dit la loi, subsidiaires, ces ressources viennent compléter les cotisations et les dons des militants. À partir de ce moment-là, on peut financer la caution avec les cotisations et puis on peut financer les élections et les fonctionnements avec les subsides de l'État. Les deux mises ensemble donnent de la force au parti. Mais si, comme c'est le cas, on demande aux gens une caution prohibitive d'environ 5 millions pour les partis qui vont être à tous les échelons, échelon présidentiel jusqu'au niveau de conseil des secteurs et chefferies, plus ou moins 14 000 candidats, c'est 5 millions de cautions quand on fait la sommation. Ces partis qui vont mobiliser ça à travers les dons de leurs militants et les cotisations seront obligés d'utiliser ça, non pas pour la campagne, mais pour financer un État qui, par contre, devait les subventionner et les soutenir.
Peut-être que le Palou et le PPRD pourraient avoir cet argent.
Oui, les Palou, mais moi je me défends, je suis en train de supposer même que puisque nous sommes au pouvoir, dans les conditions que tu connais en tant que journaliste, eh bien, ça ne m'empêche pas de demander que ce soit le cas pour les autres partis politiques. Et je veux que demain, si nous ne sommes pas au pouvoir, comme c'est le cas avec le PPR de demain, après-demain, on ne sera pas au pouvoir éternellement. On a eu un parti fort qui a eu le pouvoir que jamais personne n'aura dans ce pays, c'est-à-dire qui était le parti État, c'est-à-dire les sols et les sous-sols appartenaient au MPR, mais quand ils ont quitté l'État, ils n'ont pas eu même un lopin de terre, même un dollar, parce que tout leur appartenait en tant qu'État et ils n'avaient rien en privé, puisqu'ils n'étaient pas privés, et c'est la mort subite. Le PPRD finira par ne pas être au pouvoir. Il pourrait être déserté par les militants, mais surtout les militants qui n'ont jamais la coutume de cotiser et qui, quand ils cotisent, c'est parce qu'ils ont des postes de responsabilité. Ce sera la mort subite. Donc, c'est un combat de libération, un vrai combat de libération, qui fait que d'ailleurs, il n'y aurait plus désormais des chamailleries pour que les gens qui n'ont pas gagné cherchent toujours à aller au pouvoir. Palou ne défend pas ça pour lui-même. Nous avons une position marginale dans ces institutions pour des raisons évidentes. Nous ne sommes pas à la mangeoire comme les autres, mais ce n'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est qu'il faut que désormais, que celui qui vient, c'est le président, le prochain président, ne soit pas trop fort parce qu'il a de l'argent, mais soit fort parce qu'il a des bonnes idées et il les soumet à la compétition des autres qui et aussi sont forts financièrement. Que la différence, c'est des gages à partir de la qualité des idées, des propositions et des visions.
31 décembre 2016, 31 décembre 2017, ça fait déjà aujourd'hui plus d'une année que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé. Pour vous, Adolphe Mouzito, quel bilan vous faites de la mise en application? Entre-temps, il y a les laïcs catholiques qui ont commencé des manifestations, des marches pour réclamer la mise en application intégrale de cet accord. La majorité pense que ça va mieux, l'opposition pense que le bilan est calamiteux. Quelle est votre analyse?
Ma lecture est que, d'abord en termes de bilan d'exécution de l'accord de la Saint-Sylvestre, il ne faut pas parler de cet accord, il y a celui qui l'a précédé, qui a échoué dans l'application. On n'a pas organisé les élections. Parce qu'on a réduit les dialogues à la seule problématique des élections, comme si les élections étaient un problème technique, alors que les élections n'ont pas eu lieu parce que la démocratie n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'y a pas un rapport de force entre les peuples et les dirigeants politiques, qu'ils soient tels qu'un dirigeant ne puisse pas se permettre de ne pas donner au souverain la parole. C'est une crise sociétale, une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Donc politique, économique et sociale, c'est plusieurs crises. On n'a pas voulu en parler pendant le dialogue, alors que le dialogue des Saint-Sylvestre voulait qu'on fasse un état des lieux de l'échec de l'ancien régime. Parce que le fait qu'on n'ait pas organisé, c'est l'échec du régime, c'est l'échec de la société. Il fallait donc examiner tout cela. Donc, il y a eu un premier accord qui n'a pas réussi, il y a un second qui n'a pas réussi. On a mis en place un gouvernement et l'accord était mal conçu. Parce qu'on a dit qu'il fallait que les candidats viennent de l'opposition. Non, les candidats dans un gouvernement de coalition viennent de la coalition. Quel que soit là d'où on vient le candidat premier ministre, mais il passe par la coalition pour qu'il soit le produit de la coalition et non pas de l'opposition.
Donc l'accord était déjà mal parti en soi.
D'abord, c'est anticonstitutionnel que de dire que le candidat doit venir de l'opposition. S'il est de l'UDPS, pour équilibrer les rapports de force, parce que c'est le principal parti de l'opposition, il fallait dire que les candidats viennent d'une coalition qui sera formée entre la majorité, entre guillemets, et l'opposition, entre guillemets. De sorte que l'UDPS donne son candidat, il est accepté dans le cadre de la coalition pour appliquer une politique consensuelle. Et à ce moment-là, ils cessent d'être opposition et on cesse d'être majorité de l'autre côté. C'est un gouvernement de coalition. Parce qu'il y avait une majorité, on n'aurait pas fait appel à l'opposition.
Alors, quel est votre bilan?
Le bilan, c'est que on a mal formé le gouvernement. Le CNSA a été mis en place sans texte organique. Il n'a pas de pouvoir de sanction. Donc, c'est pas un organe de suivi et de contrôle. Eh bien, les élections n'ont pas eu lieu. Et voilà. Donc, pour moi, il faut reprendre les choses, mais en préservant les acquis.
En termes de pourcentage, ça ferait combien? Quels sont les acquis pour vous?
Je ne peux pas quantifier une question qui est qualitative. On n'a pas appliqué. Il y a des choses qui ont été faites. On a mis en place un gouvernement, mais dans des conditions qui n'étaient pas conformes à l'accord. Accord qui lui-même était mal ficelé. Et on a mis en place une institution sans texte organique, sans pouvoir de sanction sur le gouvernement. C'est même un double emploi que d'avoir un CNSA, en même temps qu'on a un Parlement qui a la compétence de sanctionner les programmes du gouvernement. C'est de l'imbroglio. Et voilà, on en est encore là. Moi, je pense qu'il faut qu'on se retrouve.
Donc, on est dans la cacophonie et la confusion.
La confusion totale. C'est une crise sociétale. Nous devons... C'est ça, les autres ont fait des guerres, quelquefois. La société s'est construite avec ce genre d'erreurs. Seulement, j'ai dit, les rapports de force que vient de créer l'Église catholique comme société civile, c'est une très bonne chose. Enfin, pour que le gouvernement sente qu'il est faible, mais qu'il ne peut devenir fort en respectant ce que la société, à travers les corps intermédiaires, veut, y compris, par exemple, de les écouter. Pourquoi on n'a pas appelé l'Église pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous proposez?
C'est une déclaration forte de la part d'un membre de la majorité.
Il n'y a plus de majorité, s'il vous plaît. Notre majorité s'est faite à travers une alliance sanctionnée par le peuple. C'est le peuple qui nous a mariés en nous donnant un mandat. Mais ce mandat, il nous a dit, c'est 5 ans. Vous êtes majorité pendant 5 ans. Après, vous n'êtes plus rien. Mais il se trouve que pour n'avoir pas organisé les élections, nous avons par imposture confisqué le pouvoir du peuple pour lequel chacun est redevable vis-à-vis du peuple. Nous ne sommes pas, nous, pas au gouvernement du fait de notre alliance avec Kabila, mais du fait que nous étions là et que nous étions obligés de gérer le pouvoir, quitte à rendre compte les moments venus. Moi, j'ai hâte que le peuple vienne nous engueuler. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une majorité. Nous ne sommes plus dans une majorité. Sinon, on ne ferait pas l'appel à l'opposition. Et nous attendons que l'UDP vienne nous joindre pour qu'on gère un pouvoir sans mandat pour lequel nous serons sanctionnés, quitte à ce que chacun se défende.
Et donc, les catholiques doivent être écoutés.
Ils doivent être écoutés et ils doivent continuer à créer les rapports de force. La société a besoin des corps sociaux, des corps intermédiaires qui font la jonction entre les sommets et la base, pour qu'il soit l'intermédiaire de ceux d'en bas vers ceux d'en haut et qui, quelquefois, aide le peuple à comprendre les difficultés des gens d'en haut. On ne peut pas avoir une nation forte sans des églises fortes, aussi bien sur le plan spirituel, intemporel que temporel. On ne peut pas avoir un pays, un État fort sans syndicat fort. On ne peut pas avoir un président respecté s'il n'est pas assis sur des corps sociaux solides qui le font respecter pour que, sur le plan diplomatique, se fasse respecter. On ne peut pas avoir un État fort si on n'a pas les 3 institutions qui se contrôlent mutuellement, c'est-à-dire les législatives, les exécutives et les judiciaires. Tout ça, c'est vide et voilà pourquoi notre pays est faible et avec son président.
Grande interview reçoit Adolphe Mouzito, député national et premier ministre honoraire.
Les laïcs catholiques ont dit qu'ils ne baisseraient pas les bras. Le gouvernement de son côté a aussi dit qu'il continuera à ne pas autoriser les marches. Comment vous entrevoyez la suite?
Un bras de fer dont le pays a besoin. Le pays a besoin des crises. Moi, je suis un dialecticien, je suis adepte des crises. On ne construit que sur la base du négatif et du positif. C'est bon pour notre pays. Qu'il y ait une église qui fait pression sur le gouvernement pour dire attention, c'est pas vous les souverains. Vous gérez par délégation des souverains et on peut vous déloger. Mais que le pouvoir conscient de cela dise attention, je ne ferai plus telle bêtise. Mais moi, je comprends pas que le gouvernement ne se soit pas fait pardonner en expliquant, par exemple, en 2016, pourquoi il n'a pas organisé les élections.
Là, vous...
En 2017, pourquoi il n'a pas organisé les élections? Ne fût dire, même mentir au peuple, pour ne fût-ce que pour lui dire qu'on a peur de lui, pourquoi on lui a menti. Mais si vous ne rendez pas compte, c'est que pour vous, ce peuple n'existe pas. Et c'est très grave.
Et là, vous vous adressez au président Kabila.
À lui-même, à moi-même, à nous tous. Ayons le sens de redevabilité.
Et vous voulez dire que c'est ça qui a manqué au président Kabila lors de sa dernière conférence de presse?
Par exemple, quand il dit qu'il a réussi. Moi, j'ai dit peut-être qu'il a réussi par rapport à ses propres objectifs. Quand il dit les routes, les Congo a besoin de 58 000 kilomètres de routes. Je ne dis pas qu'avec un mandat ou deux ou trois, on peut faire ça. C'est 58 milliards de dollars. C'est plusieurs décennies de travail. Il n'a fait que 1 500 000 kilomètres sur la route nationale. Les ressources, d'ailleurs, ne sont pas les ressources de l'État qui ont financé ça. C'est plutôt des dons. Banque mondiale, Union européenne, BAD. C'est un objectif pour deux ou trois quinquennats. Eh ben, il a atteint son objectif et pour lui, les résultats sont bons. Mais si c'est par rapport aux attentes du peuple, le résultat n'est pas bon. Qui t'a expliqué pourquoi? Le plus important, c'est d'expliquer.
Le président de la République a souligné que, conformément à ce qu'a prévu la CENI, les élections seront organisées en 2018. Adolphe Mouzito y croit-il?
Je n'y crois pas. Moins par problème de volonté politique, même si c'est aussi ça, mais des problèmes financiers. On dit nous devons le financer avec nos propres ressources. Quel est le budget de l'État? C'est 5 milliards. Donc 4 milliards de ressources propres, les milliards d'extérieurs, il ne faut pas y compter. D'abord, ça ne vient jamais, les procédures sont assez sophistiquées et les gouvernements sont faibles pour les respecter. 4 milliards, moins de 70% de réalisation. C'est le cas pour le budget 2017. Et donc, si nous réalisons 30%, on serait à 3 milliards. Les niveaux de mobilisation recettes mensuelles, c'est 300 millions de dollars. L'essentiel va au salaire. Il n'y a pas de ressources suffisantes pour qu'en 6 mois, on décaisse 500 millions de dollars dont les assignés à les uns pour qu'on soit dans le délai. Il faut avoir l'humilité de demander à la communauté internationale de nous soutenir. Moi, je suis contre ces concepts de souveraineté dans la pauvreté. Et puis, la souveraineté, ça se construit dans l'interdépendance des nations, des États et des économies. Ce n'est pas seul, isolé, vous êtes souverain, en n'ayant même pas d'armée. On n'est même pas une monnaie stable. Mais c'est de l'imposture, de mon point de vue. Nous devons être humbles, on a besoin des autres, autant qu'ils ont besoin de nous d'ailleurs.
Alors pour vous, quels sont les préalables pour que les élections aient lieu le plus tôt possible et c'est dans combien de temps selon vous?
D'abord, faisons un état des lieux. Constatons que notre État est en dépôt de bilan. Nos provinces sont en cessation de paiement. Nos entités décentralisées, nos territoires, nos communes rurales, c'est le cimetière. Moi, j'ai fait un échantillon des 10 entités, c'est la catastrophe. N'est-ce pas? Et parce que dans l'entretemps, on a des budgets faibles, qu'on gère mal, on ne rétrocède ni les pouvoirs politiques aux entités décentralisées, aux provinces, ni les ressources qui leur sont dévolues par la COASA. Et donc, moi, j'ai dit, on a besoin d'un plan d'aide internationale. Et pour la transition, et pour les prochains mandats. Sinon, après les élections, pour autant qu'elles ont lieu, serait égal à avant les élections. Ce pays est en cessation de paiement, il est en dépôt de bilan. Vous savez.
Et donc, on a besoin d'un plan Marshall pour la RDC.
Une feuille de route qui indique ce que nous devons faire ensemble et sur lesquels, comme axe essentiel, un tronc commun de mesures et d'actions à conduire, sur lesquels la classe politique, puisqu'on est un pays en construction, se met d'accord, quitte à ce que c'est lui qui gagne demain et il applique en y mettant un peu de sa sensibilité. Parce que moi, je crois que l'opposition et la majorité sont faibles. Et c'est ensemble, peut-être, que nous pouvons avoir une vue pour que celui qui arrive ne soit pas seul à concevoir une politique sur laquelle il aura beaucoup de limites et ses opposants ne soient pas capables de les contredire sur les idées parce qu'eux aussi, ils ont une faiblesse des visions.
Notre entretien est en train de tendre vers sa fin, honorable Mouzito. Aujourd'hui, l'opposition, le rassemblement ne jure que par une transition sans Kabila. Le gouvernement, la majorité, met le cap sur les élections. Quelle est la solution, selon vous, pour sortir de cette crise?
De mon point de vue, les uns et les autres se trompent. La majorité met le cap sur les élections. Ben, je sais pas, on parle des élections à venir, mais dans l'entretemps, je ne le vois pas. Je le vois gesticuler hein, à travers des réunions ou des réunions publiques, mais il n'évalue pas les réactions pour scruter l'avenir. À partir d'un diagnostic, ce monsieur, il ne rend compte à personne. Même pas à eux-mêmes, moins encore à leur parti, à leurs militants, s'ils en ont. L'opposition dit transition sans Kabila. Ils ne disent pas comment. Et en les faisant partir ou en l'obtenant de lui qui démissionne. Mais dans les deux cas, s'il démissionne lui-même, eh ben, on pourra obtenir de maintenir la constitution actuelle en acceptant le principe de l'intérim par le président du Sénat. Qui lui-même, s'il ne respecte pas les délais, nous sortons de la constitution, il faut passer à une constitution de transition. Et si on les fait partir par la force, ça dépend du sort qu'on lui réserve à lui Kabila. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut passer à une transition, parce que la prochaine autorité de transition ne peut pas gérer conformément à l'actuelle constitution qui prévoit que celui qui gère doit être élu. Donc on sera obligé de basculer dans un acte de transition qui présuppose la mise en veille de l'actuelle constitution et la rédaction, l'adoption d'une autre constitution qui ne limite plus les mandats. Et donc, sans Kabila pendant la transition égale Kabila après la transition, parce qu'on va changer de constitution en passant par une constitution de transition. Il faut faire le choix. Ou bien on veut cet accord, on le respecte, celui-ci maintient Kabila au pouvoir jusqu'aux prochaines élections, et par conséquent, il ne se représente plus par la suite, ou on dit sans Kabila, alors on passe à une transition avec un acte constitutionnel, et on rédige à la fin de la transition une constitution nouvelle qui, celle-là, ne limite pas le mandat de Kabila, dont ils ne veulent pas. Hein, encore qu'ils devaient plutôt être opposés à sa politique qu'à la personne. Parce que la perspective ne doit pas être celle de changer de visage. La perspective doit être de changer de politique. Moi, je ne sens pas les politiques publiques de ceux qui s'opposent, non pas à la politique de Kabila, que moi je combats, mais à la personne. Les gens pensent qu'ils tireront leur légitimité dans les combats des luttes contre la personne de Kabila, même si ce combat sur le plan citoyen est légitime. Mais ils doivent tirer leur légitimité dans la qualité des propositions alternatives qu'ils vont faire au peuple. Et on n'y travaille pas. On gesticule, on fait le tour du monde et tout ça.
Il faut pas. Au niveau du Palou, qu'est-ce qui est fait?
Je m'exprime, n'est-ce pas? Le Palou s'exprime à sa manière. Mais moi, je pense que ce qu'il y a, c'est que nous ne faisons pas comme nos ancêtres. Nous disions à nos ancêtres qu'en 60, on était plus préoccupés au départ du blanc que nous voulions voir partir, ne sachant pas que lui parti, c'est nous qui devons gérer le pays. On n'a pas eu le temps de travailler ensemble, de discuter pour concevoir des politiques publiques. Au point même qu'à la table ronde économique, on a été absent, alors que c'est là où on devait tirer les ressources qui devaient nous permettre de construire le pays. Et donc, l'opposition pense qu'elle aura la légitimité pour avoir été opposant à la personne de Kabila. C'est ça la source du succès, comme en 60, hein, la source de légitimité de nos pères fondateurs, c'est le fait d'avoir dit aux Blancs de partir, alors qu'en réalité c'était la lutte du peuple, pas des politiciens. La lutte des politiciens, c'est de gérer le pays en ayant un projet de société, en vendant au peuple un contrat. J'ai l'impression qu'on ne travaille pas sur les contrats sociaux, on est dans les gesticulations, dans des attaques personnelles, dans des soutiens aux personnes. Ceux de la majorité soutiennent Kabila au lieu de soutenir sa politique ou de lui en proposer une. Ceux de l'opposition, ça veulent Kabila tout en allant, en voulant aller à sa mangeoire, sans politique alternative. Moi, ça me déplaît. Ça me déplaît, ces clivages majorité, parce que majorité n'est pas un projet, n'est pas une identité. L'opposition n'est pas un projet, c'est pas une identité. L'identité, là, on trouve tout le monde. Mais quelles sont les identités qui vous caractérisent sur fond desquelles vous allez demander les mandats du peuple?
Et en guise de conclusion, quel message pouvez-vous adresser à tous ces millions de Congolais qui vous suivent à travers le pays et à l'étranger?
Mais le message, c'est celui de se considérer comme le vrai souverain, d'être le vrai souverain, de s'organiser pour revendiquer. L'Église catholique donne le temps pour que nous, politiciens, bien qu'on soit aussi de la société civile, les partis font partie de la société civile, mais que l'Église, les syndicats soient au devant de la scène pour revendiquer démocratiquement l'application des textes de la République, le respect des accords de la classe politique, pour que personne, si les élections n'ont pas eu lieu, c'est moins parce que Kabila est fort que parce que le peuple est faible. Et donc, le peuple ne doit pas se plaindre. Ah, mais Yazo Peksabiso, tout ça, la marche, il ne peut pas accepter que vous fassiez la marche pour le faire partir. C'est à vous d'être fort ou faible. Et ne prions pas en Zamba Peksabiso Mokonzi Malam. Non, c'est vous qui devez créer les dirigeants qu'il vous faut.
Honorable Adolphe Mozito, merci d'avoir reçu une grande interview.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Je recevais Adolphe Mozito, député national et premier ministre honoraire. Réalisation Dona Madimba, supervision Tina Salama, présentation Alain Irung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.